centre du mouvement au Kassai oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Global Witness demande instamment aux autorités congolaises d'ouvrir le projet de loi sur les hydrocarbures à une consultation publique comme elles l'ont fait avec la révision du code minier. Car selon cette ONG internationale, la loi sur les hydrocarbures telle que se présente à l'heure actuelle créerait un système opaque. Cette affaire relance donc le débat sur l'exploitation pétrolière en République démocratique du Congo. Quel regard portez-vous sur cette affaire et sur l'exploitation pétrolière en RDC? Composez le 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre comme à l'accoutumée à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Titi Poutou, Pierre Lamegi et Paul Badianiam réalisent cette émission et Gilles Lungembo vous la coordonne et la présente sous la supervision de Nicole Gata. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
À la demande de Global Witness, le gouvernement dit que la loi prévoit l'attribution des blocs pétroliers et qui s'est fait par appel d'offres. Et le gouvernement ajoute qu'on peut faire le forage même dans des zones dites protégées avec des techniques modernes sans détruire l'environnement, donc sans causer des dommages environnementaux. Nous allons ouvrir les débats avec vous, vous qui nous rejoignez à peine. Nous avons Galvani qui est en Bougimaï, qui tient à participer à cette émission et vous qui souhaitez également déposer vos commentaires sur notre page Facebook, n'hésitez pas et aussi nous écrire à notre adresse pa@radiocapi.net. donc vous pouvez composer les 081 893 15. Galvani, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour à tous.
Voilà Galvani, vous avez suivi l'actualité, cette ONG britannique continue toujours, ça c'est la énième fois, qu'elle demande aux autorités congolaises d'ouvrir le projet de loi sur les hydrocarbures à une consultation publique comme elles l'ont fait avec la révision du code minier. Quel regard portez-vous sur cette demande et sur la problématique de l'exploitation pétrolière en RDC?
D'accord, merci beaucoup pour la parole. Je crois que la demande des Global Witness est fondée, parce que vous savez que non, un gouvernement est là pour, elle pose des actes, ces actes qu'il pose doit servir à la protection de la population et aussi au bien-être de la population. Donc tout acte que le gouvernement doit poser doit être soumis à la consultation publique, comme bien sûr ça a été concerné pour le code minier, parce que le code minier a été vraiment sensibilisé, mais le code de l'hydrocarbure jusque là, il est presque méconnu de la population. Maintenant, concernant la problématique des hydrocarbures ou de l'exploitation de petit pétrole en RDC Congo, vous savez que dans plusieurs pays aux limitrophes de la RDC, comme l'Angola, l'Ouganda et d'autres, exploitent déjà le pétrole. Par contre, nous qui avons déjà cette matière précieuse, on ne sait même pas jusque là l'exploiter. On est à l'étape de l'exploration jusque là. Par contre, ça constitue aussi une matière qui peut nous faire enfouir les caisses de l'État et les recettes de l'État. Mais malheureusement, jusque là, on est qu'au début de l'exploration, nous sommes à l'exploration. Mais on a besoin des recettes. Par contre, ces recettes-là peuvent provenir du pétrole. Nous avons beaucoup de pays qui sont développés, c'est à cause de pétrole. Mais nous, on se base que sur les recettes minières, les mines qui sont épuisables, mais le pétrole peut aussi nous renflouer les caisses de l'État. C'est ça un peu long.
Donc, si je comprends bien, Galvani, vous soutenez l'idée selon laquelle il faudrait soumettre cette loi sur les hydrocarbures à une consultation publique. Donc là, vous rejoignez la demande de Global Witness, cette ONG britannique, qui en fait la énième demande aux autorités congolaises.
Évidemment, je soutiens nécessairement parce que la population.
Quel sera le rôle, si vous permettez, Galvani, s'il vous plaît, quel sera le rôle alors du Parlement?
Bon,
le parce qu'il y a des discussions qui ont été engagées par au niveau du Parlement.
Il a d'autres appliques, d'autres tâches à faire et on peut soumettre ça aussi pour que la population soit vraiment, bien sûr, les parlements.
Donc, vous parlez de la sensibilisation. Donc, fixez un peu les choses. Vous parlez de la sensibilisation ou bien de la consultation publique.
On doit d'abord sensibiliser et consulter. Parce qu'on ne peut pas se consulter des gens qui ont des histoires qui ne connaissent même pas. On doit d'abord commencer par la sensibilisation et après passer par la consultation. Parce que vous voyez, même là, sinon on va tomber sur peut-être même la Constitution. Parce que la Constitution, certaines personnes ont voté ça même pour autant la lire. C'est ça aussi le problème.
Voilà, parce que le Global Witness insiste pour éviter à ce qu'il y ait un système opaque. Donc la gestion de l'exploitation pétrolière, qu'elle qualifie d'opaque, c'est-à-dire... on ne connaît pas, les exploitants ne sont pas connus, ne sont pas très bien identifiés, et même les résultats que cela donne n'en profitent pas réellement à la population. Est-ce que vous partagez cet avis?
C'est là où le bas blesse avec notre pays, parce qu'il y a vraiment une gestion opaque, et que ceux qui dirigent, les gouvernants ne rendent pas compte aux gouverneurs. Par contre, lorsque un gouvernement pose des actes qui doivent être au service de la population, par contre, ils vivent dans l'opacité, il y a trop de fraude, et ça aussi le problème. On trouve qu'il y a des gens qui viennent, ils exploitent, et que la population ne sait même pas qui exploite, qui fait quoi, qui exploite les richesses de notre pays. C'est ça le problème. Global Witness a raison.
Merci beaucoup, Galvani, d'avoir appelé de Mbujimayi. Jean-Pierre, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Jérôme Ngembo. Bonjour, amis auditeurs de la Radio de la Paix.
Votre point de vue, Jean-Pierre?
Ah oui, mon point de vue est à Bako. Sur la déclaration globale, moi, je trouve que c'est aussi important de mettre aussi le débat ouvert pour que tous les Congolais puissent en savoir aussi davantage. Parce que je me souviens, la législature passée, à l'Assemblée nationale, on avait voté une loi, je ne sais pas si c'était une loi, si c'était l'accord sur l'exploitation du pétrole de l'Angola et la RDC. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est l'Angola qui exploite ce pétrole-là. La RDC n'en profite presque rien. Si nous voulons vous compter le pays limitrophe de la RDC, on montre toujours leur suprématie sur nous en exploitant le pétrole dont nous nous sommes propriétaires et que nous, le propriétaire, nous n'en bénéficions presque rien. Si le Nigeria, par exemple, aujourd'hui, le Nigeria est ce qu'il est aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, ils ont privilégié tout d'abord leurs ressources en l'exploitant pour bénéficier aussi quelque chose, et la population aussi en est bénéficiaire, parce que si on pouvait créer aussi les emplois, dans ce cas-là, la population en sera aussi bénéficiaire.
Voilà, Jean-Pierre, c'est vrai, vous avez évoqué la législature passée où il a été discuté au niveau du Parlement la question sur l'exploitation commune entre la RDC et l'Angola. Il était prévu dans certaines dispositions que l'Angola puisse, au fait, disons, rétrocéder quelques dividendes d'exploitation à la RDC. Ben alors, c'est ça aussi, ça ouvre les débats, ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il y a certaines ONG qui montent au créneau, c'est pour voir un peu clair, parce qu'ils savent qu'à un certain niveau, la gestion elle est vraiment opaque et que le résultat que cela donne n'en profite pas à la population. Bon, voilà, on verra avec notre invité qui sera dans quelques instants dans ce studio pour essayer.
Oui, bien sûr, la gestion est opaque.
Voilà, Jean-Pierre, donc vous êtes revenu sur ce que Galvani a dit tout à l'heure, donc l'exploitation qui n'en profite pas à la population. Je crois que c'est des choses, c'est un état des lieux et qui est déjà connu par tous, et notre invité pourrait nous éclairer là-dessus. Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir appelé de Kinshasa. Georges, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour, Georges.
Bonjour, viewer, bonjour à tous les auteurs.
Votre point de vue, Georges?
Merci. La déclaration de la Global Witness est trop, comment dirais-je, pertinente. Dans le sens où, d'abord, à notre niveau, il ne faudrait pas que nous ayons l'idée sur ce que les organisations internationales peuvent penser de nous comme avantage. Nous sommes les peuples autochtones, nous sommes les originaires de ce pays. il faudrait que nous-mêmes nous en prenions en charge de toute la richesse que nous possédons ici sur place. Il ne faudrait pas que chaque fois qu'il y a un problème.
Voilà, dommage, on a perdu Georges. On va prendre Crispin qui est à Kisangani. Crispin, merci de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour,
Gilles. Voilà, vous avez suivi Galvani, Jean-Pierre et Georges. Ils sont tous favorables à cette demande de Global with Nate. C'est vrai, tout en insistant également sur l'exploitation pétrolière qui ne profite pas à la population. Est-ce que vous avez le même avis? Peut-être pas. Bon, quel est votre point de vue?
Oui, certes, moi également, je soutiens cet avis de Global with Nate. Bien sûr, en exploitant, nous devons effectivement privilégier également cet aspect environnemental. Malgré, bon, que jusque-là, notre gouvernement n'arrive pas à obtenir les gains de cause sur le bénéfice que nous aussi nous devons avoir par rapport à ces réserves de forêt que nous conservons, comme par exemple le Brésil. Mais ce qui nous étonne, c'est cette habitude, cette façon en fait de gérer les choses par notre gouvernement. Des fois, je dis, c'est comme si on ne fait que biper les gens et après, les choses disparaissent. Prenons l'exemple du bloc albertain de l'Ituri. En fait, je ne sais pas autant de fois qu'on annonce que des groupes devaient venir et qu'ils ne viennent toujours pas. On a même eu des avant-projets, mais qui n'ont aboutit à rien. Et pourtant, de l'autre côté de l'Ouganda, les gens avancent déjà. Et moi, je me pose la question de ce que veut vraiment notre gouvernement. Ou soit on est pour nous, ou soit on est contre nous, parce que, tel que par exemple ce bloc albertain, au même moment que nous nous traînons, les Ougandais, nous risquons de venir de matière épuisable.
Voilà, on a des soucis avec vous, Christophe.
Je suis désolé, il faut vraiment que notre gouvernement nous fasse de plus.
Voilà, on ne saura pas vous retenir le plus longtemps possible en onde, Crispin, parce que là, on a des petits soucis de communication avec vous. Il est temps pour nous de prendre Séraphin qui est à Bujumbura. Séraphin, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, je suis Séraphin, je suis de la radio.
Vous avez la parole, Séraphin.
Oui, merci de l'opportunité que vous m'accordez encore une fois de plus à passer à cette émission. Moi, je crois qu'avec la loi actuelle sur le pétrole en RDC, nul n'ignore que.
Voilà, Séraphin, vous êtes avec nous? Dommage, Séraphin n'est plus en ligne. Le temps pour nous de vous rappeler, chers auditeurs, vous pouvez également participer à cette émission en composant les 081-890-63-15 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre, comme à l'accoutumée, à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook.
Au pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission, Okapi Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Okapi vous donne la parole. Okapi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Voilà, s'il faudrait vous rappeler, mesdames et messieurs, en 2010, la production pétrolière du pays était d'environ 25 000 barils par jour et a généré plus de 320 millions de dollars de recettes fiscales. Récemment, un accord avec l'Angola sur le partage des bénéfices des champs offshore lucratifs a été signé. Par ailleurs, l'RDC a accordé des licences d'exploration pétrolière le long de sa frontière nord-est avec l'Ouganda. qui en fait continue commence déjà à exploiter, mais du côté de la RDC rien n'est encore fait. Nous avons suivi d'ailleurs cet auditeur qui a rappelé cette chose, mais permettez-nous de vous rappeler deux articles de cette loi sur les hydrocarbures. L'article 63 qui stipule que l'appel d'offres est obligatoire, cependant l'article 64 vide cette notion de tout son sens en précisant qu'une fois qu'une offre a été déclarée recevable, aucune autre demande ne peut être instruite jusqu'à ce qu'une décision d'attribuer la concession ait été prise. Alors l'article 24 de l'actuelle proposition de loi permet donc l'exploitation pétrolière dans les aires protégées. C'est cet article 24 d'ailleurs qui divise l'ONG Global Witness avec les gouvernements congolais, qui dit par contre que la loi prévoit l'attribution des blocs pétroliers qui va se faire donc avec d'appels d'offres, mais il ajoute que les forages, on peut même aller au niveau des forages dans les zones dites protégées avec des techniques modernes sans détruire l'environnement. Voilà. Alors Franck est à Kindu, on va lui accorder également la parole. Franck, vous êtes avec nous. Oh, bonjour Franck. Franck, vous êtes avec nous? Voilà, Franck, vous êtes déjà en direct. Si vous pouvez prendre la parole et nous donner votre point de vue. Franck, vous êtes avec nous? Voilà, dommage, Franck n'est plus en ligne. Le temps pour nous de vous rappeler que nous attendons recevoir notre invité, le professeur Félix Mwemba, qui est expert en pétrole et gaz à l'Université de Kinshasa.
Parole aux auditeurs.
Voilà, je disais tout à l'heure que l'article 24 de l'actuelle proposition de loi permet donc l'exploration pétrolière dans des aires protégées, et d'aucuns craignent déjà ce que nous appelons les dommages environnementaux. Et voilà que l'ONG Global Witness monte au créneau pour dire non à cela et propose à ce que le gouvernement puisse ouvrir la loi sur les hydrocarbures dans une consultation public et de protéger les zones dites protégées contre l'exploration du pétrole. Voilà. Nous avons suivi les interventions des uns et des autres, Galvani, qui parlait tout à l'heure de cas des pays limitrophes qui exploitent déjà les pétroles et que l'exploitation pétrolière ne profite pas à la population congolaise. Et ce qui est encore plus étonnant, parce que ailleurs, les gens sont déjà au niveau de l'exploitation pétrolière, mais tandis que en RDC, on est jusque-là en phase de l'exploration. Alors, Jean-Pierre a insisté en évoquant cette exploitation commune entre la RDC et l'Angola. En principe, l'Angola devait partager donc des bénéfices de champs offshore lucratifs avec la RDC, mais jusque-là, il n'en est pas question, on ne sait pas. Et ça, ça rejoint d'ailleurs l'idée de Global Witness qui évoque la gestion opaque. Et Crispin qui a évoqué également le bloc albertain de l'Ituri, où au niveau de l'Ouganda, on assiste déjà à des exploitations, mais tandis que au niveau de la RDC, tout reste encore, au début, donc rien n'est encore fait. Voilà, nous avons quelques petits soucis avec nos moyens de communication, donc. Et je crois que d'un moment à l'autre, nous pourrons avoir le rétablissement de la communication pour vous permettre d'intervenir. Répondez donc, réagissez également à toutes à vos préoccupations donc au 081-890-63-15.
Au Capitan, du mercredi à jeudi de 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit et le samedi Megamix de 19h à minuit. Au Capitan New Wave, tous les mercredis de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons, des Congolais d'ici et d'ailleurs.
Thank you. Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous allons encore scruter cette demande de Global Richness qui parle des ressources pétrolières de la RDC Congo qui sont de plus en plus prisées et nombreuses sont les compagnies pétrolières ayant des intérêts en République démocratique du Congo. Là, ce rapport cite l'American Chevron et la française Total en tête et des acteurs plus modestes comme l'entreprise britannique Soco International qui sont également sur les rangs. Alors, selon Global Witness, le premier problème posé par ce projet de loi est celui des appels d'offres donc pour cette ONG. Les entreprises qui gagnent les marchés, hein, cela se passe d'une manière un peu opaque. Voilà, nous allons prendre Dr Richard qui est en ligne. Dr Richard, bonjour.
Bonjour JR, bonjour aux auditeurs, bonjour aussi à ceux qui ont cogité avant moi sur ces antennes à propos du pétrole, le nerf de la guerre, je suis à vous.
Voilà, vous avez la parole par rapport à la question du jour. Hein. Nous avons dit que Global Witness demande instamment aux autorités congolaises d'ouvrir les projets de loi sur les hydrocarbures à une consultation publique, comme elles l'ont fait avec la révision du code minier. Selon cette ONG, hein, la loi sur les hydrocarbures, telle que se présente à l'heure actuelle, créerait un système opaque. Alors, cette affaire relance le débat que nous engageons aujourd'hui sur la problématique de l'exploitation pétrolière en RDC. Quel regard portez-vous sur cette exploitation?
Merci beaucoup. La première chose, c'est celle-ci. En principe, on dit bien, chez des gens qui respectent leur peuple, vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ici, chez nous, vox populi, vox, c'est la voix du démon. Et le peuple, quand il veut parler de ça, il est maltraité comme on peut. Et je me retiens de dire d'autres choses. Alors, maintenant, ouvrir cette loi à la consultation populaire signifie montrer au peuple là où se trouve sa richesse pour qu'il en profite. Aujourd'hui, les richesses du pays ne profitent pas au peuple, mais ça profite aux dirigeants.
Ben oui, mais docteur Richard, la grande question, ben, où est la place du Parlement? Parce que c'est le Parlement qui est censé légiférer.
Mais justement, nous vous allons poser la question, la place des concertations aujourd'hui pour parler au premier point de la gouvernance est où? C'est le Parlement qui devait en parler. Est-ce que dans les assises là-dessus, les concertations, on parlera de la gouvernance du pétrole? Et c'est encore la question. Voilà, on est en train de flouer le peuple. Voilà.
Et comment
on ne parlera jamais, oui, jamais des richesses du peuple pour que ça lui profite.
Et comment réagissez-vous par rapport à la décision du gouvernement qui, en fait, dans cette loi, hein, son article 24, parle permet l'exploration pétrolière même dans les aires protégées?
Ça, c'est la fuite en avant. Je dis ceci, paix à son âme. Yamungul disait, va changer chauffeur, va changer motukate. Paix à son âme. Aller dans les airs protégés, c'est insulter aussi Mobutu, qui fut le premier président du monde à être médaillé par le programme des Nations Unies sur l'environnement. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit aux Nations Unies sur les airs protégés? Aujourd'hui, on insulte sa mémoire. Aujourd'hui aussi, on insulte tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, on voudrait que le Congolais aille où avec les airs protégés? C'est de l'aventurisme qu'il faut arrêter. C'est trop.
Non, mais docteur Richard, on ne peut pas.
Allez-y.
On ne peut pas qualifier la chose de cette façon-là, d'autant plus que. Le gouvernement, insiste pour dire qu'on doit faire le forage, même dans les zones dites protégées, avec des techniques modernes.
C'est-à-dire quoi? Vous savez que les gaz des chips en Europe, là, sont en train de faire cogner les têtes des gens. Il y a des pays honnêtes qui ont suspendu ça. Il y a des pays honnêtes. Si on trouve le pétrole à Ngiringiri, on va forer ça comment? C'est ça le problème. On va forer tout en laissant les gens. On va forer tout en détruisant les maisons sans faire la compensation. C'est ça le problème. Il y a des richesses enfouies qu'on doit garder. Surtout dans des pays comme les nôtres, où dans le budget, rien n'est prévu pour les générations à venir. On leur demande de ne dégager que 10% du budget pour les générations à venir. Est-ce que c'est fait? C'est ça le problème. Donc, dans les aires protégées, c'est insulter aussi ce qui se fait aujourd'hui sur la protection de l'environnement. C'est insulter ça. On va vite en besogne pour avoir de l'argent. Pourquoi? Parce que personne ne profite de ça jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde est en grève, tout le monde est en graissement des dents, etc.
081-890-6315.
Écho d'économie sur Radio Capi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent. Nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, merci à tous de nous avoir rejoints. Nous vous rappelons que Global Witness demande instamment aux autorités congolaises d'ouvrir le projet de loi sur les hydrocarbures à une consultation publique, comme elles l'ont fait avec la révision du code minier. Selon cette ONG internationale, la loi sur les hydrocarbures, telle qu'elle se présente à l'heure actuelle, créerait un système opaque. Et nous relançons donc le débat sur la problématique de l'exploitation pétrolière en République démocratique du Congo, avec comme question pour participer à ce débat, quel regard portez-vous sur cette affaire et sur la problématique donc de l'exploitation pétrolière en République démocratique du Congo. Donc vous pouvez composer les 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre comme à l'accoutumée à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Martini est à Lubumbashi. Martini, bonjour.
Monsieur Pierrot, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Voilà, vous avez suivi les débats depuis le début avec d'autres auditeurs, en commençant par Galvani, Jean-Pierre, Georges et Crispin. Et à votre tour, vous avez la parole.
Oui, moi je pense que si je me base sur le propos de disons de l'ONG britannique qui pense à une consultation publique. Je pense que c'est pas mauvais. Une consultation publique, c'est bien, mais il faut tout de suite se poser la question, c'est que ça aura comme conséquence sur l'exploitation du pétrole dans notre pays, puisque cette consultation publique a aussi été faite pour les codes miniers révisés dans notre pays. Alors, moi je suis au Katanga où l'exploitation des ressources naturelles, croyez-moi, monsieur, c'est un pillage. Et pire encore, c'est un vrai sabotage de l'environnement. Alors, les vrais problèmes, je ne pense pas que ce soit une consultation publique. Les vrais problèmes, c'est la gestion des ressources naturelles dans notre pays.
Donc, pour vous, le vrai problème, c'est la gestion de l'exploitation pétrolière dans notre pays et non la consultation publique. Donc, on peut s'en passer, mais en mettant un accent sur la gestion. Mais je crois qu'au niveau de Global Witness, on a dû parler de tout ça. Hein, et c'est la raison pour laquelle nous, on a relancé les débats sur la problématique de la gestion l'exploitation pétrolière en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Martin, d'avoir appelé. Nous servons dans ce studio. Professeur Félix Mwemba, qui est expert en pétrole et gaz à l'université de Kinshasa. Bonjour, professeur.
Bonjour, je ne suis pas expert en pétrole et gaz d'abord.
Professeur.
J'ai fait la géologie appliquée, donc je m'occupe des ressources naturelles en général, minérales comme pétrolières.
Ok. Alors, vous avez suivi peut-être quand vous rejoignez ces studios, disons dans votre véhicule, vous avez suivi quand même les auditeurs qui ont réagi avant votre entrée dans ces studios. À chaud, comment réagissez-vous par rapport aux préoccupations des uns et des autres?
Oui, je comprends le souci des uns et des autres. C'est un souci qui est naturel et normal. Quand on te dit propriétaire d'un grand champ et que tu ne vois pas le maïs, quelque part on se pose des questions. Mais les choses ne doivent pas être passionnées non plus. Je crois que y a un travail à faire et ce travail doit être fait calmement, dans toute sérénité. Ma première question va plutôt à Global Witness. Pour avoir personnellement participé à la mise en place du code mini, je crois que j'étais un des deux experts assis à Lubumbashi au moment où cette importante loi a été adoptée. Et je sais aussi, par ailleurs, avec le professeur Mabi, qui est sénateur, ancien Premier ministre, nous avons dirigé pour le compte de la Banque mondiale deux séminaires. Je ne sais pas comment et où s'est faite cette consultation populaire. Je ne vois pas personnellement l'intérêt de cela. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons une loi qui est vétuste, mais le gouvernement vient de déposer, je crois, au niveau du Parlement, une loi sur laquelle la loi n'a pas encore été adoptée, d'après ce que je sais. En tout cas, elle n'a pas encore été adoptée dans les mêmes termes au Sénat comme à la Chambre. Donc, il y a encore des modifications qui peuvent y être apportées. Et je crois que ce n'est pas en ajoutant de la passion à la confusion qu'on arrivera à des résultats qui soient palpables.
Oui, parce que nous relançons le débat sur l'exploitation pétrolière, bon, par rapport à cette demande des Global Witness. Alors, comment s'est fait concrètement l'attribution des droits pétroliers en RDC?
Ben ça, je crois que
Si peut-être vous avez une idée, vous éclairez les uns les autres, oui.
Ben, j'ai une petite idée pour avoir participé soit du côté congolais, soit quelquefois du côté, en tant qu'expert, du côté des partenaires. Normalement, le gouvernement congolais fait un appel d'offres, mais je veux vous rappeler ici, en 1984, nous avons fait une promotion à Londres pour ce qu'on appelait le Graben de l'Est, qui a maintenant été subdivisé en Graben du Tanganyika et Graben de Albertine. Et nous n'avons eu personne. Ce n'est pas parce que vous lancez un appel d'offres que nécessairement les gens s'intéressent. Et il y a toute une série de problèmes qui font que quelquefois, les acteurs pétroliers qu'on recherche ne viennent pas dans le pays. Notamment pour un certain nombre de problèmes pour lesquels Global Witness est beaucoup plus avisé que moi en parler. Donc, il y a cet aspect-là. Alors, j'ai cru déceler aussi que ce qui gêne Global Witness, c'est que quand on a fait un appel d'offres, et dès lors qu'on commence à examiner une offre, on ne peut pas recevoir d'autres offres. Mais ça, je crois que c'est une règle qui est généralement reconnue. Quoique, dans le secteur pétrolier aujourd'hui, les négociations se font pratiquement à tout moment. Donc, je crois que ce qui est important pour un gouvernement, c'est d'avoir des idées claires sur ce qu'on veut faire. D'abord, savoir qui paye l'exploration. Et une fois que le gisement est connu, dans quels termes il sera exploité, qui sera l'opérateur. Et dès lors que cela est fixé, il faut savoir comment se fera la répartition à la tête du puits, et puis de connaître tout ce qui est par voie fiscale. Pour contourner tout ça et pouvoir toucher tous les acteurs que cela intéresse, je sais que le ministère des hydrocarbures, dès lors qu'il y a une offre qui lui est faite, invite et le ministère de l'Environnement, et le ministère des Finances, et la DGI, je crois, c'est DGI pour le moment,
DGI. Oui.
Et tous les organes qui peuvent être intéressés, et c'est après avoir discuté au niveau des experts que ce travail est déposé auprès du ministre des Hydrocarbures.
Mais ce qui étonne plus d'un aujourd'hui, la loi, le projet de loi prévoit aussi l'exploration au niveau des aires protégées.
Mais ça, c'est un problème qui est politique.
Parce que de quel craigne les dommages environnementaux qui peuvent s'en suivre.
Ben, je ne crois pas que nous, Congolais, nous soyons les gens qui ont le plus pollué l'environnement. Il ne faut pas non plus exagérer quelquefois. il y a un problème qui s'est passé dans le changement des présidents américains quand on passe des démocrates aux républicains. C'est le problème de l'exploitation pétrolière du Grand Nord. Si les démocrates y sont opposés, les républicains sont pour. Donc je ne crois pas que cela puisse gêner.
Donc si le gouvernement est pour, il y aura toujours d'autres qui seront contre.
Évidemment, il y a des gens qui seront toujours contre. Il ne faut pas oublier que l'exploitation pétrolière, comme l'exploitation minière, parce que ça, on l'oublie, c'est des activités qui démolissent l'environnement. Il faut arriver à trouver un moyen terme qui fasse que...
À mettre des garde-fous pour éviter qu'il y ait des
abus, qu'il y ait des dérapages.
Alors, professeur, à ce jour, si vous pouvez peut-être nous faire une idée, à quel niveau se situe l'exploitation pétrolière en République démocratique du Congo?
En République démocratique du Congo, vous parlez de l'exploitation, oui, uniquement l'exploitation. Il y a une seule exploitation, il y a deux exploitations en République démocratique du Congo, c'est l'exploitation offshore par Mioc et l'exploitation onshore par Perenco, le tout ayant comme opérateur, je crois, Perenco, qui fait 25 000 barils par jour en moyenne depuis plusieurs années. Il ne faut pas oublier non plus que dès lors qu'on a la société Perenco, qui a quand même un très grand portefeuille baril, la société Perenco est surtout spécialisée pour des gisements qui sont à leur fin d'exploitation.
Oui, mais selon nos sources, en 2010, la production pétrolière du pays était d'environ 25 000 barils par jour et générait plus de 320 millions de dollars en recettes fiscales. Ben alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu des avancées ou peut-être on fait du surplace? Parce qu'il y a un auditeur qui a évoqué le bloc alimentaire de l'Ituri, qui jusque-là est inexploité. Hein.
Mais on ne peut pas exploiter le bloc de l'Ituri pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas encore fait l'exploration.
On n'a pas encore fait, donc on est encore en phase d'exploration.
On a commencé l'exploration. Nous étions en avance sur le cadre du projet PROBE. Nous étions en avance sur l'Ouganda. En 1989, nous avons d'ailleurs signé un document d'unitarisation entre l'Ouganda et le Congo. Le document existe. Mais depuis l'Ouganda, via Tulo, Tulo a fait un travail qui est appréciable du côté ougandais, avec près de 40 puits forés, d'après les éléments dont je dispose. Et là, il y a des gisements qui ont été trouvés dans le onshore ougandais. Sur le lac, c'est là où se trouve le gros de notre pétrole. Parce qu'on peut dire qu'il y a du pétrole, mais où et en quelle quantité, ça nous ne le savons pas encore, parce que l'exploration n'a pas encore pris fin.
Voilà.
Et on ne peut pas commencer à exploiter un gisement quand il n'a pas encore...
Non, parce que quand vous évoquez l'année 89, où la RDC avait de l'avance par rapport à l'Ouganda, aujourd'hui, la tendance est inversée. Bon, qu'est-ce qui serait à la base de...
Mais à l'époque, il y avait tout un travail qui s'est fait avec la Banque mondiale et Petrozaïre à l'époque, dont la structure a été d'ailleurs en partie recopiée par Sonangol. Mais bon, depuis, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont, donc ce n'est pas... Le problème, ce n'est pas de chercher des boucs émissaires.
Non, on cherche pas des boucs émissaires, mais on cherche à établir la vérité quand même, pour les générations futures, qu'on ait quand même une idée, parce que comment on est parti de 89, où on avait déjà de l'avance par rapport à l'Angola, aujourd'hui...
Non, en 89, je n'ai pas dit qu'on avait de l'avance par rapport à l'Angola.
Non, par rapport à l'Ouganda. Vous avez dit l'Ouganda.
L'Ouganda.
Mais comment aujourd'hui la tendance est inversée?
Parce qu'il y a eu la recherche, l'Ouganda a fait l'exploration, nous n'en avons pas fait.
Alors, tout
ce qui se fait aujourd'hui.
Mais en tant que chercheur aujourd'hui,
non,
qu'est-ce qu'il ferait?
S'il vous plaît, tout ce qui se fait à Goma, dans le sud Kivu, l'Ituri et attenante au nord Kivu, tout ça ne favorise pas la recherche pétrolière. Tout ça ne favorise pas la recherche pétrolière. Ce n'est pas pour rien que on recherche de pacifier le pays. Et ça, c'est quelque chose, on doit saluer le président de la République qui, contre vents et marées, se bat pour...
Voilà, on va revenir à vous, parce que vous êtes chercheur, et aussi nous aider, si, comment on peut sortir quand même de ce retard. On va prendre d'abord Niembo qui est à Kalima. Niembo, bonjour. Voilà, Soupi, Niembo. Voilà, malheureusement. Alors aujourd'hui, on a des petits soucis avec le moyen de communication. Professeur, on vient parce que vous êtes chercheur. C'est vrai qu'il y a un retard quand même. Hein. Nous avons qu'il y a un certain retard par rapport à d'autres pays, comme l'ont dit certains auditeurs, par rapport aux pays limitrophes. Alors comment on peut sortir de ce retard? Quelle est la solution?
D'abord, restaurer la paix. Restaurer une gouvernance qui soit digne du Grand Congo. Créer la confiance, les grandes sociétés pétrolières viendront, d'autant que les ressources sont certaines. Ce n'est pas... le retard que nous avons sur l'Ouganda n'est pas irrattrapable. Hein. Mm-hmm. De toute façon, l'intérêt de l'Ouganda comme la République démocratique du Congo, c'est que ces gisements soient exploités ensemble.
Voilà, alors parlons un tout petit peu de l'exploitation commune entre l'RDC et l'Angola, parce qu'on sait, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'exploitation à offshore et à onshore, au niveau de Moanda par exemple, hein, au niveau de Moanda, il y a quand même des entreprises qui sont opérationnelles de ce côté-là. Si vous pouvez peut-être nous faire une idée là.
J'aime la précision, je ne crois pas qu'il y ait d'exploitation commune entre la RDC et l'Angola. Je crois qu'il y a un accord de l'Angola pour rétrocéder une partie des gains à la République démocratique du Congo. Pour le reste, je crois que l'affaire est en cours. L'affaire est encore en cours. Je m'excuse, c'est peut-être un domaine que je ne maîtrise pas tout à fait. Je crois que l'affaire est en cours.
Oui, parce que Global Witness a évoqué ça aussi.
S'il vous plaît. Oui. Le problème, c'est d'abord de fixer la frontière maritime entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Et je crois que les gouvernements respectifs, depuis déjà plusieurs années, s'y attellent. Dès que cela sera fixé, le Congo pourra dégager des blocs pétroliers au niveau de l'océan.
Voilà, il y a également la question sur le gaz méthane hein, qui aujourd'hui reste toujours exploité au niveau de Nord-Kivu, mais voilà, de Sud-Kivu aussi. Je ne sais pas, peut-être on pourrait revenir sur ça, le temps d'accorder la parole à Monsieur Mbala, qui est aussi un journaliste, hein, il est du journal Observateur, qui a souhaité également participer à cette émission. Monsieur Mbala, vous êtes avec nous, bonjour.
Ah, bonjour mon frère, comment vous allez?
Plus ou moins bien, donc vous avez la parole par rapport à la problématique du jour.
Oui, je voulais d'abord apporter une petite information, hein, peut-être que pour l'inviter aussi, concernant l'exploitation du pétrole dans les Grabens albertines. Le lac Albert, hein. Mm-hmm. C'est juste pour, parce que je viens de là justement, j'étais en reportage, juste pour dire qu'il y a actuellement l'exploration qui est faite par une entreprise qu'on appelle All of Congo. Et cette entreprise vient de terminer derrière la phase d'exploration, parce qu'ils ont essayé de retirer quelques roches dans ce graben, et les roches vont être envoyées en laboratoire en Grande-Bretagne pour examiner s'il y a des poches de pétrole. Et ce n'est qu'après cette phase qu'ils vont entamer l'exploitation proprement dite.
Non.
Alors que l'Ouganda a déjà commencé l'exploitation depuis longtemps. Mais mon intervention va surtout s'articuler sur l'exploitation du pétrole dans le parc national des Virunga. Je crois que ça doit être un combat pour tous les Congolais de ne pas tolérer que ce parc, qui est quand même un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, puisse être exposé à cette forme d'exploitation. Ce parc est l'un des plus vieux du monde.
Oui, monsieur,
il existe depuis 1925, et ce parc regorge des espèces les plus rares de la faune mondiale. Vous savez, je vais vous dire une chose, ce parc est le dernier refuge de gorilles de montagne. Ce parc abrite les espèces les plus rares des primates, les singes, les chimpanzés. Si aujourd'hui, on se met à exploiter le pétrole, croyez-moi, nous allons participer à la destruction lente et progressive de ces...
Oui, monsieur,
et ça doit être un combat de tous les Congolais, parce que la reconstruction du Congo partira également de la sauvegarde de ces aires protégées et de la pêche à l'avenir nous permettre de développer une industrie touristique qui peut nous permettre de régénérer des recettes plus que le pétrole. Alors, je crois que nous devons être la préoccupation de tous nos dirigeants. Moi, je l'ai toujours dit d'ailleurs, nous devons avoir un fondement de la politique étrangère. Le fondement de la politique étrangère de la RDC doit être basé sur la protection de ces espèces naturelles qui sont parmi les plus rares du monde. Donc ça doit être vraiment une préoccupation nationale, plutôt que de laisser tous ces aventuriers venir brader inutilement les richesses congolaises, alors que la population en ne retire rien.
Oui, oui, monsieur Mbala, juste une question de précision avant qu'on accorde la parole à notre invité, hein, parce que le gouvernement a insisté pour dire que on fera le forage même dans des zones dites protégées avec des techniques modernes, hein, mais sans au fait détruire l'environnement.
Je vous ai peut-être parlé de l'exploitation du schisme en Europe. Vous voyez ce qui se passe. Mais je vous assure, l'Australie a l'une des techniques les plus modernes de l'exploitation du schisme et même de certains minéraux. Mais il y a une loi qui est maintenant érigée au sein du Parlement australien pour voir comment on peut réduire tant soit peu l'exploitation minière. Mais nous ne devons pas être parfois trompés par certains experts occidentaux qui viennent et qui vous font croire. Qu'est-ce qu'ils nous ont pas dit? On nous a parlé de la guerre chirurgicale. Est-ce que c'était vraiment une guerre chirurgicale en Irak? Nous devons être vraiment conscients et la société civile, c'est-à-dire pas la société civile, mais la presse, les organisations de défense de l'environnement, tout le monde doit se mettre debout pour dire non, non au bradage.
Donc c'est d'ailleurs cette question-là sur les zones dites protégées. Et je crois que le professeur va répondre à cette question tout de suite d'ailleurs.
Bonjour mon cher Mbala, j'ai cru entendre Femme Nkenda d'heureuse mémoire. Tant vous êtes hargneux. Je crois que et le sous-sol et le sol et tout ce qui est au-dessus, le parc, appartiennent à la République démocratique du Congo. S'il y a des arbitrages à faire, ces arbitrages doivent se faire. Personne n'a dit ici qu'il faut démolir l'environnement parce qu'il nous faut absolument du pétrole. Personne ne l'a dit. Et pour vous parler d'une loi qui existe dans notre pays, qui est la loi minière, il y a tout un volet de la reconstitution de l'environnement. Mais je ne pense pas que c'est en prenant des positions arrêtées dès le départ qu'on va servir la République démocratique du Congo. Je m'excuse, c'est très amical ce que je vous dis. Je crois que le parc national de Virunga appartient à la République démocratique du Congo jusqu'à la preuve du contraire. Même si la République démocratique du Congo a voulu en faire un domaine du patrimoine mondial, mais le sous-sol, ce qu'il y a dans le sous-sol, appartient également à la République démocratique du Congo. Il appartient à la République démocratique du Congo, aux citoyens congolais, de faire l'arbitrage pour savoir où se trouve leur véritable intérêt. Si le lac demain, parce que le lac, il y a aussi, l'exploitation du lac risque d'emmener aussi quelques problèmes au niveau environnemental. Il y a aussi, nous avons toute une faune à l'intérieur de ce lac. Si demain la République démocratique du Congo estime que l'exploitation du lac et des environs du lac sans toucher au parc est suffisante, ce sera suffisant. Je ne vois pas pourquoi il faut passionner les choses. L'important, c'est que les Congolais sachent exactement qu'est-ce qu'il y a dans leur sous-sol. Alors, vous avez dit tout à l'heure, parce que vous venez de là-bas, que l'exploration est terminée. Non, je crois que l'exploration est dans sa phase de démarrage. Hein, ce n'est pas parce que il y a tout un travail qui est beaucoup plus long. C'est pas parce qu'on envoie quelques roches dans les laboratoires que automatiquement on a déterminé les gisements. Non, je ne crois pas.
Alors on va évoluer parce qu'il y a une dernière série des auditeurs qu'on va prendre. Il y a Théophile qui est à Kananga, Chukuru à Bukavu et Kabongo à Kinshasa. Théophile, bonjour.
Bonjour, Gér, bonjour à l'invité que j'apprécie beaucoup.
Voilà, on a pris assez de temps, dommage, parce qu'on a eu des petits soucis des communications et vous êtes venu juste en dernière minute. On va accorder à chacun une minute et puis on va conclure cette émission avec notre invité. Théophile, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Je dis que le sentiment patriotique me pousse à dire que je ne vois en quoi l'ONG doit se mêler dans la gestion de notre pays, de nos ressources. Parce qu'en principe, le gouvernement congolais doit déterminer à partir de ces institutions ce que nous devons faire de notre patrimoine national. Ce que je regrette est que la plupart des Congolais n'ont pas confiance dans leurs institutions. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'a pas voté les députés qui sont au Parlement. Personne ne peut dire qu'il n'a pas voté les sénateurs. Donc, il faut faire confiance à nos institutions, à nos dirigeants, pour que nous puissions bénéficier de cette norme. Parce que ce n'est pas n'importe quoi qui doit aller dans les trésors publics pour vérifier la richesse et sa répartition. Ce sont nos représentants qui doivent s'en occuper. Voilà, et je m'arrête là parce que l'invité a déjà
tout dit.
Et c'est très important ce qu'il a dit.
Voilà, merci beaucoup Théophile. Choukourou, vous êtes à Bukavu. Bonjour.
Oui, merci les journalistes. Monsieur, madame, les journalistes. Moi, je pense que tout ce qui se passe au Congo, tout ce qui se passe en Angola, tout ce qui se passe au Rwanda, tout ce qui se passe, par exemple, à l'Angola, nous sommes quand même un pays responsable. Nous avons voté un président de la République. Nous sommes capables de faire cette exploitation. Par exemple, au moment où le Rwanda commence à exploiter le gaz méthane, qui nous appartient tous, mais où est le gouvernement? Où est le ministère des Mines, les hydrocarbures? Mais si les journalistes, moi je pense que le gouvernement devrait prendre sa responsabilité. Tout ce qui se passe au Congo, c'est le manque de leadership. Au moment où une ONG internationale arrive au Congo, impose ses propres opinions, nous taisons. Mais je pense qu'on doit avoir des experts. Monsieur le journaliste, moi je pense que le gouvernement congolais doit prendre ses responsabilités. On ne doit pas nous imposer n'importe quoi. Par exemple, il y a Joseph Andro qui arrive, impose ses propres idées. Mais je pense que le congolais doit prendre ses responsabilités, madame.
Oui, c'est plutôt monsieur, hein. Voilà. Alors, on va prendre le tout dernier auditeur, c'est Kabongo qui est à Kinshasa. Kabongo, bonjour.
Bonjour, Njote Jambo à tous les occupants de la radio de la paix et bon retour à Sierra Leone.
Merci beaucoup, confiance. Voilà, vous avez la parole. Quand vous êtes le tout dernier auditeur, vous avez une
tout
minute.
À fait. Oui. Je veux aller juste au but en répondant à la question de savoir quel est le regard porté sur l'exploitation pétrolière. Le regard que moi je porte, il est un peu attristant. Oui, comme toutes les ressources de notre pays, la gestion est opaque. Parce que ceux qui dirigent ne veulent pas être transparents, étant donné qu'en étant transparents, ils vont s'exposer au risque d'être redevables, parce qu'ils ont peur de qu'on leur demande des comptes. J'aurais même appris que même les recettes provenant des ressources pétrolières ne sont même pas budgétisées, ne sont même pas prises en compte dans l'élaboration du budget. Et quant à ce qui concerne l'exploitation ou l'exploration dans les aires protégées. Sincèrement, je ne vois pas pourquoi nous risquerons d'aller là-bas. Qu'est-ce que nous allons chercher aussi longtemps que nous avons été incapables de gérer les ressources épuisables que nous avons. Tout ce que nous avons comme ressources est épuisable. Et il n'y a aucun plan les ressources et savoir. Nous n'avons pas d'autorités qui peuvent nous dire que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, nous n'aurons plus ces gens de ressources. Aujourd'hui, ceux qui ont exploité le diamant sont en train de regretter. Parce que le cours du diamant ne peut plus faire vivre des gens comme il le faisait avant. Ça risquera d'arriver de la même manière avec le cuivre, avec le cobalt, avec l'or et le pétrole. Donc on n'aille pas vite en besogne en cherchant à l'exploiter de l'or noir et même jusqu'à détruisant l'environnement pour en faire quoi ici, si ce n'est pas mettre ça dans leur poche? La population n'en profite pas. Moi, je pense que quelque part, même si on dit que qu'il y ait des lois qui doivent passer à des sanctions populaires, par exemple un référendum, moi, j'aurais souhaité que des choses comme ça soient bien expliquées à la population et que la population soit capable de dire non pour l'exploration, l'exploitation de tel produit. Non, pas encore, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans.
Merci beaucoup, Confiance Kabongo, et vous êtes le dernier auditeur à intervenir dans cette émission. Nous revenons à vous, professeur Mvuemba. Vous êtes professeur à l'université de Kinshasa et vous avez travaillé aussi dans le secteur de mines, tout comme dans les hydrocarbures, hein, avec beaucoup de recherches en tant qu'expert voilà, à la matière. Alors, Global Witness qui a demandé au gouvernement d'ouvrir la loi sur les hydrocarbures dans une consultation publique et de protéger les zones dites protégées contre l'exploration du pétrole. Entre-temps, le gouvernement dit que la loi prévoir que l'attribution des blocs pétroliers s'est fait par appel d'offres. Il ajoute qu'on peut faire le forage même dans les zones dites protégées avec des techniques modernes sans détruire donc l'environnement. Alors, votre réaction pour conclure cette émission?
Mais je crois que les choses bougent. Hein. Vous savez qu'actuellement, il y a le bras de fer qui est en Guinée entre le président Condé et un opérateur minier. Ici aussi, je crois que les choses vont évoluer. Ils évoluent peut-être lentement, mais ils vont évoluer. Le problème de l'exploration pétrolière, le souci de Global Witness, c'est un souci que je trouve légitime, c'est vrai, mais il faudrait dire comment ces choses se feraient. Il y a une procédure qui existe aujourd'hui. On peut peut-être commencer par critiquer cette procédure, mais cette procédure essaye au moins de mettre autour de la table tous ceux que la chose est censée intéresser et tous ceux qui ont les éléments pour pouvoir faire avancer le débat. J'espère que, comme pour la banque, pour la loi minière, le gouvernement requerra l'avis autorisé de la Banque mondiale et je crois que ce sera une garantie peut-être suffisante pour faire avancer les choses. Voilà ce que je pouvais dire.
Professeur Mvuemba, Félix, vous êtes professeur en pétrole et gaz à l'université de Kinshasa. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté de répondre aux préoccupations des uns et aux autres au cours de cette émission. Donc nous prenons rendez-vous avec vous très prochainement. Une fois encore, merci d'avoir fait le déplacement de ce studio.
Merci.